Bonjour, Laurent Devime, professeur à l'école d'architecture de Nantes, est intervenu dans le cadre de l'UMA Café sur le thème « Le droit à la ville habitable, un enjeu démocratique ». Soirée débat animée par le géographe Jean-Yves Martin.
Vous êtes le Lefèvrien.
Ah, ça pourrait déjà être un sujet de discussion probablement. Mais en tout cas, c'est pas une...
Laurent Devime.
C'est pas une entité que je renierais, donc en effet, on pourrait dire qu'on tâche d'être le Lefèvrien, peut-être. C'est-à-dire de mobiliser aujourd'hui une pensée qui peut toujours être active, vivante, interpellant le reste de la société, probablement.
Comment être le Lefèvrien aujourd'hui ?
Grande question, qui a longtemps été différée, mais qui aujourd'hui reprend une grande actualité.
Jean-Yves Martin.
Et le fait est que ce soir, le thème général, c'est la ville. Or, quand on dit ville, c'est un vaste sujet. Et évidemment, ce qui vient souvent, c'est l'idée de droit à la ville. On cite volontiers la notion de droit à la ville, mais on n'en cite pas aussi facilement l'auteur. Or, l'auteur, c'est Lefèvre. Donc aujourd'hui, en France, il y a une sorte de mise à jour par rapport à la pensée de Lefèvre concernant la ville. Mais l'urbain, c'est beaucoup plus vaste que ça. L'objectif de l'UMA Café, c'est de parler de la ville et... au passage aussi, d'essayer de voir quel est l'apport de Lefèvre dans la pensée urbaine aujourd'hui.
Qu'est-ce que la quotidienneté ?
Oh, alors, à brûle pour point. En tout cas, c'est une notion, moi, que j'affectionne particulièrement. Chez Lefèvre, ça parcourt, je dirais, quasiment toute son œuvre, la critique de la vie quotidienne. C'est un projet qu'il tient sur quasiment 40 ans et qui a amené aussi d'autres chercheurs, après lui, à s'emparer de cette notion de quotidienneté, à savoir une condition de l'homme moderne, probablement, et un quotidien qui est présent d'une manière à la fois immense dans toutes nos vies, et en même temps rarement saisi comme ce qui fait le substrat de nos positionnements théoriques, politiques, etc. Donc je crois que Lefèvre, en pointant du doigt cet enjeu de ce niveau de la vie quotidienne, renvoyait à l'idée que la ville est d'abord un espace vécu, qu'elle s'éprouve par des moments, des situations. Et je pense que ce qui accompagne la quotidienneté, ce sont des notions fortes comme celle-ci, de situations construites, de critique des moments. Et peut-être ce sont des prises aujourd'hui pour penser des mouvements que l'on peut voir ici ou là. Et je pense à Nuit debout, par exemple.
La critique de la vie quotidienne chez Lefèvre, c'est un élément, mais qui vient s'inscrire dans un ensemble beaucoup plus vaste. Et le fait est que Lefèvre a développé, dans une période relativement courte, entre 1968 avec le droit à la ville et 1974 et la production de l'espace, une pensée spatiale qui intègre d'une part une partie de la critique de la vie quotidienne, mais qui également essaie d'articuler l'espace conçu, l'espace vécu et le troisième, l'espace perçu. Voilà. Et c'est cette chose-là qu'aujourd'hui, on essaie de réactiver, qu'on essaie d'articuler. Et la quotidienneté, elle est souvent perdue de vue. C'est-à-dire qu'au fond, la planification urbaine, l'aménagement urbain, la conception de la ville, sa gouvernance aussi, perd de vue trop souvent la quotidienneté. Mais la quotidienneté qu'on oublie ou qu'on écarte, elle s'impose aujourd'hui sous différentes formes, des mouvements sociaux, Nuit debout, quelque part, effectivement, c'est l'expression de l'espace vécu qui s'insurge contre l'espace conçu et contre l'espace produit.
Nuit debout a investi une place qui a pour vocation d'accueillir des installations plastiques.
Mais en tout cas, on peut trouver intéressant que finalement, sur la place du Bouffet à Nantes, puisqu'on parle du cas nantais, on se trouve sur un espace qui est dédié depuis quelques années aussi, chaque été, à des manifestations qui s'inscrivent dans le cadre du voyage à Nantes, par exemple. Et donc, d'un tourisme certes différent de ce qui se passe dans d'autres villes, peut-être plus informé, plus intelligent, mais qui s'inscrit aussi dans ce que Lefèvre aurait pu appeler du ludique programmé, où on est censé suivre une ligne pour contempler la ville et peut-être la transformer en valeur d'échange, alors qu'elle est peut-être d'abord valeur d'usage. Et d'une certaine manière, ces investissements d'espace public, et on en a vu ailleurs, hein, et dans d'autres lieux, rappellent que l'espace public peut d'abord être le support d'une ville conçue comme valeur d'usage, ce qui est assez subversif, finalement, quand on le compare à la manière dont les villes se sont standardisées et plutôt construites autour de l'accueil d'activités marchandes, génériques. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de donner d'exemple pour cerner cet aspect-là. voit bien, en tout cas, dans le contexte qui est le nôtre, hein, mai-juin 2016, qu'on a certainement encore plus qu'il y a quelques années une crainte quant à l'espace public qui peut devenir insurrectionnel, qui peut devenir menaçant, et avec parfois une difficulté pour les pouvoirs publics de situer, repérer ce qui va se produire depuis l'espace public. Et pour autant, hein, on peut se rappeler de moments, et Lefebvre y a travaillé d'ailleurs, hein, comme la Commune de Paris ou bien comme d'autres, où les espaces publics sont effectivement beaucoup plus occupés, beaucoup plus le lieu de différents entre les gens, de différents entre les gens et les pouvoirs publics. Et peut-être qu'on pourrait davantage tabler et d'avoir davantage confiance sur ce que permettent ces rassemblements, plutôt que de les voir tout le temps comme des menaces face à un ordre établi, par exemple. Peut-être qu'on pourrait changer de regard par rapport à ce que sont ces rassemblements.
On est dans la filiation de la pensée sous Napoléon III d'Haussmann.
Ben, en tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut mettre au travail. C'est-à-dire, est-ce que... Alors, le contexte a changé, on n'est plus sous l'Empire, etc., bien sûr.
Il y a des manifestations à Nantes.
Mais bien entendu, il y a des manifestations. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a toujours cette idée de rendre visible, dégager les perspectives, et que tout ce qui vient entraver ces circulations censées être fluides est vue comme un problème, un obstacle à la bonne circulation des marchandises, par exemple. Et ça rejoindrait des analyses qui avaient pu être faites par Lefebvre ou par d'autres quant à l'haussmannisation de Paris et des grandes villes à la fin du XIXe siècle.
Alors aujourd'hui, on est conduit forcément à qualifier la ville. On ne peut pas parler de la ville en général. Et puis, il y a un certain nombre de problématiques, et celle-ci en est une, d'actualité. Mais bon, on a parlé de la ville industrielle. Ça pose une question. Qu'en est-il des traces et des représentations de la ville industrielle et aussi portuaire, concernant particulièrement Nantes, quoi. Et puis aujourd'hui, les choses évoluent. Et on parle par exemple de la ville, de la smart ville, la ville intelligente, la ville connectée, avec une réalité augmentée. C'est des sujets qui méritent aussi d'être regardés dans une approche critique. Et puis également, par exemple, il y a une problématique qui s'est imposée depuis quinzaine d'années, qui est celle de la ville durable. Et la question, c'est de quelle durabilité s'agit-il ? Et on voit par exemple que depuis quelques années seulement, en France, il y a un certain nombre, il y a une nouvelle génération de géographes, jeunes géographes, critiques, qui ne sont pas des lefèvriens historiques, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec le fait qu'ils aient connu Lefebvre lui-même. Ce n'est pas les gardiens du temple, hein, ce n'est pas des gens qui sont là pour s'inscrire dans la pensée de Lefebvre, mais qui utilisent, au fond, non pas comme des instruments, mais qui essaient de revisiter les concepts lefèvriens pour les appliquer à la ville d'aujourd'hui. Et ça donne une série de travaux qui sont très intéressants, pour moi qui suis un lefèvrien ancien. Donc à une époque en France, il y a eu un moment en France où Lefebvre a été complètement oublié, moi je crois qu'il faut le dire. Le fait est que la France s'est retrouvée très en retard par rapport à d'autres pays qui, au contraire, eux, avaient fait leur mise à jour à ce sujet. Je pense au Brésil, bien sûr, mais aux États-Unis, je pense à l'Allemagne. Et le fait est qu'il y a un grand nombre de géographes qui ont su utiliser avant nous, bien avant nous, c'est-à-dire qu'ils n'avaient peut-être pas les mêmes préventions que nous par rapport à Lefebvre. Voilà. Lefebvre ayant fait l'objet d'un double ostracisme en France, l'ostracisme à la fois de l'université, un ostracisme académique réel, quoi, hein, et puis l'ostracisme aussi de la part de son propre parti, puisque le Parti communiste l'a écarté en tant que maître à penser de l'urbain au profit d'autres. Et rétrospectivement, je pense que là, il y avait là une petite erreur. Voilà.
Mais ça se traduit comment une ville lefèvrienisée, je ne sais pas comment dire.
Alors évidemment, comme vient de le dire Jean-Yves, il ne faudrait surtout pas que cette ville lefèvrianisée ou couleur Lefebvre soit transformée en modèle, en une utopie qui serait une utopie abstraite. L'un de ses combats, finalement, ça a été notamment de mettre en avant l'enjeu des utopies concrètes qui donnent le chemin de leur réalisation depuis l'existant, avec un point de vue critique, pour aller vers autre chose. Alors, on peut peut-être être un peu plus concret. À son époque, il s'intéresse aux travaux dans la foulée des situationnistes, mais des surréalistes aussi avant, des travaux d'un architecte qui s'appelle Constant Nieuwenhuis, sur la Nouvelle Babylone. Il s'intéresse aux travaux de Ricardo Bofill, à une époque où il n'est pas encore le représentant du postmodernisme et du kitsch dans un certain nombre de villes. Ce qui l'intéresse, c'est de retrouver le niveau de la ville vécue, on l'évoquait tout à l'heure, de retrouver une ville sensible, dans laquelle il y ait des dénivellations de sens, qui est aussi ouverte à peu près au maximum, je dirais. Alors ouverte non pas au flux et au canon, mais ouverte à l'appropriation, y compris de ceux qui n'ont pas les capitaux économiques pour pouvoir y résider. Donc on a toute une série de critiques dans l'analyse qui en effet débouchent sur une ville, alors qui pourrait être aujourd'hui, je crois, traduite par le plus d'hospitalité possible. Alors, ce n'est pas une thématique qu'on va trouver très, très forte chez Lefebvre, l'altérité, l'hospitalité. Et pour autant, je pense qu'aujourd'hui, on est toujours, si on met en avant la valeur d'usage, si on met en avant le fait que la ville peut être un espace-temps de déploiement de la quotidienneté, peut-être qu'on n'est pas si loin de ces enjeux dont on voit bien tous les jours l'importance d'une certaine hospitalité et d'une critique des logiques de rente qui continuent d'être très fortes. Hein. Il faut quand même bien voir que le capital urbain reste un investissement très important pour les grands acteurs économiques et donc on peut imaginer d'autres appropriations que celle-ci.
Mais ça se traduit par une réflexion autour de la distribution entre les lieux de travail, les lieux de résidence, les lieux de commerce.
C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Le droit à la ville, et Lefebvre vient assez rapidement, c'est le droit à la centralité. Non pas une centralité commerciale, mais une centralité qui suppose le lieu du rassemblement des hommes et des marchandises, et qui est une critique du fonctionnalisme, du séparatisme, qui sont très forts dans les années 1960-70. Je reviens il y a 15 jours, 3 semaines, d'un voyage d'études avec des étudiants à Mourinx. Mourinx, ville nouvelle, première ville nouvelle française, qui se met en place à côté du gisement de gaz de Lac, dans le Béarn, et qui est la projection au sol d'une société bureaucratique, technocratique, dans laquelle on peut lire, et dans laquelle on lit toujours d'ailleurs, hein, la répartition du logement pour les ouvriers, pour les contremaîtres, pour les cadres sur les collines. Et d'une ville qui est, comme on le disait tout à l'heure, celle dans laquelle on réside et puis on travaille à côté, etc. Donc on a aussi chez Lefebvre une critique du fonctionnalisme, de la doctrine de Le Corbusier qui veut séparer là où on dort, là où on travaille, là où on se récrée, etc. Et je pense que cette critique, il n'est pas toujours inutile de la rappeler aujourd'hui, parce que c'est pas sûr qu'on soit vraiment passé à autre chose. Et à juste titre, Jean-Yves disait tout à l'heure, la novlangue des nouvelles idéologies urbaines, hein, autour du durable ou autour du smart par exemple, il n'est pas sûr, quand on regarde concrètement comment se produit la ville, qu'on soit vraiment dans un autre paradigme de production de la ville.
Ce sont les habitants qui ont démissionné ou ce sont les politiques qui se sont accaparés, hein, tous les droits?
Alors là, ça pose plusieurs questions, qui sont les questions de la fabrique de la ville. Ça, c'est une question que Laurent a beaucoup étudiée, sur laquelle on viendra tout à l'heure, sans doute. Et puis, il y a aussi la question de la gouvernance, hein, c'est-à-dire politiquement, qu'est-ce qui se passe et qui a le pouvoir de décision dans la ville? Et c'est une question qui est, à mon avis, très importante, parce qu'en même temps, dans la même période récente, quelques décennies, la ville s'est fragmentée. Et ça, on parle beaucoup de Lefebvre, mais Lefebvre n'apporte pas de réponse toute faite. Il donne des pistes et il donne aussi, surtout, je crois, une méthode pour aborder ces choses-là. Une méthode qu'il qualifie, qu'il explique. Et puis aussi, il s'appuie sur une dialectique qui n'est pas formaliste, enfin une logique qui n'est pas formaliste, mais qui est une logique dialectique. Et c'est-à-dire qu'il incite à aller chercher les contradictions. Et derrière les contradictions, les conflictualités. Or, la ville actuelle, c'est une ville qui, d'une certaine manière, étouffe les conflictualités, les déplace géographiquement. Et ça ouvre sans doute des perspectives importantes et intéressantes pour, par exemple, aborder la question de la centralité, au sens de centralité fonctionnelle de l'agglomération. Mais ça pose aussi la question de toutes les périphéries. Parce que l'un des couples dialectiques importants chez Lefebvre, c'est justement cette logique contradictoire entre centre et périphérie. Et notamment, ça pose une question qui est celle du périurbain. Voilà.
Laurent Devime, professeur à l'école d'architecture de Nantes, et Jean-Yves Martin, géographe, sont les invités du magazine.
Notamment, ça pose une question qui est celle du périurbain. Voilà. Et là, je crois qu'il y a des pistes à explorer et à approfondir, parce que je ne dis pas qu'on est complètement à sec là-dessus, mais il y a quand même pas mal d'interrogations qui restent, quoi. Alors, par exemple, il y a eu, ce qui est curieux, mais les ouvrages de géographie, de sociologie géographique qui ont le plus de succès ces dernières années, c'était les ouvrages de Christophe Guillouis, qui fait l'objet de critiques extrêmement sévères. Personnellement, je trouve que elles sont trop sévères, parce qu'au fond, il a au moins le mérite de poser des vraies questions. Cela dit, est-ce qu'il apporte les bonnes réponses? Je suis pas persuadé. Mais au moins, il donne des pistes, au moins, il suscite des interrogations qu'il faudrait approfondir et auxquelles il faudrait apporter des réponses, à mon avis. Vivant dans le périurbain, je trouve que c'est des questions urgentes.
Bon, alors la question, c'était, les habitants ont-ils démissionné et les politiques se sont-ils emparés de l'ensemble? Bon, il y a plusieurs facteurs qui vont dans ce sens tout de même. C'est-à-dire que d'une part, et déjà Lefèvre en parlait du silence des usagers, de son inquiétude sur le fait que ce qu'il a pu étudier de ces moments révolutionnaires, et la Commune de Paris certes, mais aussi 1968, sont dans le rétroviseur à la fin des années 70, dans les années 80. Et en effet, il s'aperçoit que, en somme, on a plutôt une démission de beaucoup des habitants par rapport aux enjeux de leur cadre de vie, comme on l'appelle parfois. Et en tout cas, c'est vrai que la question que j'évoquais tout à l'heure de la confiance dans l'action collective, elle est réelle. Enfin, on a plutôt une défiance, en l'occurrence, aujourd'hui. Et la question de la remobilisation ou de la question du sens politique pour la plupart des habitants est une question à la fois vive et en même temps dont les gens ne savent pas bien comment ils peuvent s'en emparer. On a plutôt une sorte de production d'apathie de ce point de vue-là qu'autre chose. Et c'est vrai que d'un autre côté, sur le champ politique, ce qu'on a surtout vu, je pense, c'est à la fois une sorte de technicisation de la vie politique, beaucoup de développement de différents appareils de management, de prise en compte, en fait, de prise en charge de la vie politique par des gens compétents, c'est pas le problème, mais qui ont eu tendance, d'une certaine manière, à défaire l'enjeu de la prise que l'on doit avoir sur les affaires de la cité, et une sorte de dessaisissement dont plusieurs professionnels sont en partie responsables, je dirais, avec toute une série de nouveaux métiers qui entourent le politique et qui font que le politique est rentré dans une ère de management. Hein. C'est vrai du politique dans les entreprises, c'est vrai du politique dans la vie de la cité. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui de réfléchir aux conséquences que ça a pu avoir. Et notamment, des conséquences immédiates, c'est celle qu'on peut lire dans, globalement, la désaffection vis-à-vis des suffrages réguliers. Enfin, je pense qu'à un moment donné, ça pose vraiment une question de l'ordre de la crise, on peut le dire. Quand on voit les dernières élections partielles qui ont eu lieu sur le territoire, par exemple, voilà, à quoi est-ce que cela renvoie de ce qu'est un député aujourd'hui, par exemple, je pense au dernier mandat de ce point de vue-là.
Si on prend l'exemple de l'île de Nantes et son aménagement, en fait, on crée un nouveau centre.
Oh là là, alors ça, c'est vrai que c'est à nouveau une question vaste et intéressante, parce qu'on voit bien, y compris les professionnels, un peu en difficulté pour nommer ce phénomène. En effet, il y a quelque chose de l'ordre de la... D'un décentrement de la ville de Nantes qui s'est déplacée en partie sur le territoire de l'île de Nantes. Et vous savez que l'urbaniste qui est encore au travail sur ce territoire parle de métacentre. Alors ça ne parle pas à grand monde, le métacentre. L'idée en tout cas, c'est de dire que c'est un peu un centre d'un nouvel ordre au-dessus du centre, mais qui ne le remplace pas. Puisqu'il y a toujours cette crainte de dire que, en gros, ce que l'on crée, est-ce qu'on le crée à la place d'eux? Est-ce qu'on est en train d'affaiblir une centralité historique pour la déplacer ailleurs, avec des nouveaux attributs, plus ou moins m'as-tu vu, sur l'île de Nantes. Donc il y a tout un travail chez les urbanistes qui est de requalifier une centralité d'agglomération. Alors qu'est-ce que c'est qu'une centralité d'agglomération? Là aussi, on peut en parler plus longuement. Est-ce qu'elle est complémentaire à celle qui existait? De quel ordre est-ce que cela se retrouve-t-il? Est-ce que c'est une centralité ludique? Il y a des indicateurs de ce point de vue-là qui en témoignent, marchandes aussi, c'est vrai, mais peut-être un nouveau type d'espace public, un nouveau type de rapport aux espaces dits naturels, à la Loire. Je dirais que c'est intéressant d'avoir une vision qui ne soit pas unilatérale de ce point de vue-là, et en même temps d'être attentif, en effet, à ce que ça veut dire que de chercher dans l'urbanisme à créer quelque chose comme un nouveau centre, ménageant le centre existant. On n'est plus dans l'ère des villes nouvelles qui créent des nouveaux centres à partir de rien. Dans quelle ère sommes-nous? Il faut qu'on y travaille.
– une ville pourrait avoir plusieurs cœurs.
Oui, parce que le fait est que après le concept de centralité au sens strict, maintenant on envisage la ville dans le cadre d'une polycentralité. Alors qu'est-ce que ça signifie, quoi ? Quel sens on peut donner à cette chose-là ?
Entre horizontalité et verticalité, donc là on est plutôt dans un dogme de verticalité. La ville prend de la hauteur, on bâtit de plus en plus haut.
Ce couple, la horizontalité-verticalité, il rejoindrait celui des manières dont on peut densifier les villes. Moi, il me semble qu'on peut avoir des villes très intéressantes qui sont verticales et que, en tout cas, on a parfois une critique un peu rapide de ce que signifierait la hauteur et la densité. Je pense que ce qui se fait du côté de Gare Sud, en termes de forme, hein, je ne parle pas de programme ou d'accès le plus large à la population, n'est pas inintéressant. Et on peut peut-être s'interroger sur le fait que la recherche de mettre en place des tours sur l'île de Nantes a toujours été assez vivement combattue. Alors est-ce que c'est le syndrome de la tour Bretagne des années 1970 et qui fait que dès qu'on pense à tours, on a en tête cet emblème un peu caché, peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'on peut tout à fait avoir des formes verticales qui sont intéressantes et liées aux enjeux qu'on évoquait tout à l'heure. D'une certaine manière, Manhattan pourrait en attester.
Il faudrait déplacer la tour de Bretagne.
Mais alors, où la mettre ?
Je pensais qu'au fond, la thématique de la verticalité ou de l'horizontalité, elle s'applique peut-être moins à la question des formes urbaines qu'à la question de la gouvernance. Parce que du point de vue de la gouvernance, on reste dans la verticalité. Voilà. Alors qu'effectivement, les émergences actuelles donnent plutôt à penser qu'il y a une aspiration à l'horizontalité. Quoi, voilà. Et c'est ça qui, sans doute, est émergent. Alors, pour autant, doit-on dire qu'on est à la veille de la naissance des villes rebelles, comme disent certains géographes? Je suis un peu réservé sur la façon de dire les choses, parce que, à mon avis, les villes rebelles sont très différentes selon les cas. Chacune est spécifique. Quoi, voilà.
Et on associe une ville à son aéroport?
Ah, eh bien, en tout cas, on ne peut pas contester le fait que sur le plan au moins national, quand on parle de Nantes, on parle de son ex-futur aéroport. Et en effet, je crois important aujourd'hui de rouvrir le débat. Et on peut espérer que le mois de juin, de ce point de vue, soit riche en controverses, même si l'horizon du 26 juin et du référendum en laisse plus d'un perplexe.
Ça veut dire quoi, ex-futur?
Mais je ne sais pas. C'est qu'on voit bien, en tout cas, que le projet de Notre-Dame-des-Landes, pour ne pas le nommer, il a plus de 40 ans d'existence. Donc de ce point de vue, il est ex. C'est-à-dire que c'est un projet qui a déjà vécu longtemps. On voit bien un État qui a bien du mal à remettre en question les décisions qu'il a prises à certains moments. Peut-être aujourd'hui, en effet, peut-on douter de sa pertinence. C'est le cas de plusieurs élus, associations, habitants. Peut-être autrement, ce projet était-il un pari et ceux qui l'ont lancé ont du mal aujourd'hui à l'argumenter d'une manière très significative.
Et pour l'habitant périurbain, si j'ose m'exprimer ainsi.
Alors, c'est des sujets qui sont vifs, voilà, mais qui en même temps nécessiteraient d'avoir un débat un peu plus apaisé. Parce que je vois, par exemple, je considère la page de couverture de la dernière livraison de la revue Place Publique, où on met face à face le oui et le non, et où on évoque le titre du dossier en question, c'est « Pourquoi tant de bruit ?» avec une suggestion, peut-être beaucoup de bruit pour rien. Sans doute pas, voilà. Et le contenu même de la livraison donne à réfléchir un peu, parce que finalement, on n'est plus sur la base du dossier, on n'est plus dans l'argumentation point par point du dossier. On est, alors c'est ce que dit la revue, on est dans le choc des
imaginaires.
Des imaginaires, voilà.
C'est le papier de Thierry Guidé dans le...
Désolé, mais on revient à Lefebvre. C'est-à-dire, c'est les représentations qu'on se fait de l'espace. Et le fait est que là, il y aurait quelque chose à débattre de façon plus approfondie. Question, est-ce que ça sera le cas ou non dans le délai d'ici le 26 juin ?
Merci à Laurent Devime, professeur à l'école d'architecture de Nantes, et à Jean-Yves Martin, géographe, pour leur libre participation à ce reportage réalisé avec la complicité de l'UMA Café de Nantes.